Et là, ça fonctionne ou pas? Ouais. Donc Buffon, il va avoir cette idée, je vous dis qu'en quelque sorte, à l'origine de la méthode expérimentale, il va faire fondre des boules de métal, de différents types de métaux, qui vont avoir des diamètres différents, des plus petites jusqu'aux plus grosses. Il va regarder le temps qu'il faut pour que ces boules se refroidissent jusqu'à ce que la surface soit réellement solide. Il va ensuite en calculer en disant, eh bien, pour la boule qu'est la Terre, avec le diamètre que l'on connaît, on connaît à ce moment-là la taille de la Terre, il va pouvoir en déduire l'âge de la Terre. Et il va arriver à un âge de 70 000 ans, dont on sait à l'heure actuelle qu'il est extrêmement sous-évalué, puisque notre Terre, elle a des milliards d'années, elle a 4 milliards, plus de 4 milliards d'années. Mais il arrive donc à un âge qui est bien supérieur à celui que l'on suppose à l'époque, puisqu'à l'époque, on pense que la Terre, elle n'a que, d'après les religieux qui en ont fait le calcul, qu'elle n'a que 4004 ans. Peu importe ces chiffres, c'est pour vous montrer que, justement, dans toute cette histoire qui nous a permis d'arriver jusqu'aux idées évolutionnistes, il a fallu effectivement non seulement trouver des choses, non seulement trouver des faits, mais ensuite pouvoir les expliquer et aussi avoir des méthodes qui permettent de les démontrer. Là, c'est le fameux atelier où Buffon faisait une gravure qui représente l'atelier dans lequel il a fait fondre ses boules. Alors, autre grand nom, et qui est toujours à peu près de la même époque, vous voyez qu'on est en gros, on est au milieu du XVIIIe siècle, ce grand nom, c'est Lamarck. Alors, pour ceux qui sont parisiens, ce sont tous les noms qu'on va voir là à l'heure actuelle, ce sont tous les noms des rues que l'on trouve autour du Jardin des Plantes, autour du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, et qui sont tous les grands noms qui ont permis, si vous voulez, à cette idée d'évolution d'arriver en quelque sorte, d'arriver au jour. Alors, Lamarck, lui, il est évolutionniste. C'est-à-dire que le combat entre les fixistes et les évolutionnistes, à cette époque-là, donc on est au 18e et au 19e siècle, il commence réellement à semer, enfin je veux dire, il y a une bagarre qui s'installe, il y a des discussions qui s'installent. Lamarck, lui, pense qu'effectivement, les animaux d'aujourd'hui ne sont loin d'avoir toujours été tels qu'ils le sont. Il pense qu'il y a une évolution. Un des exemples les plus frappants qu'il ait étudié est celui des girafes. Les girafes, celle qui est à votre extrême droite, voyez que les girafes, quand on les regarde, elles ont nécessairement les deux pattes avant beaucoup plus longues que les deux pattes arrière, un cou extrêmement long. Et donc, Lamarck en arrive à cette conclusion que si les girafes ont un cou qui est si long, c'est que leur cou s'est allongé de manière à pouvoir aller brouter, si on peut dire brouter, dans les hautes cimes des arbres. Alors, la réalité n'est pas exactement celle-là. Ensuite, les théories évolutionnistes permettront de comprendre un peu davantage. Mais il n'empêche qu'on commence à avoir non seulement une intuition des idées qui parviennent, et en plus une tentative d'explication de ces idées-là. Autre grand adversaire du fixisme, Geoffroy Saint-Hilaire, toujours pour les Parisiens, il y a une rue Geoffroy Saint-Hilaire à Paris, autour du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et alors lui, c'est un anatomiste, il est frappé par la ressemblance entre les membres des mammifères. Vous avez ici en haut, ce sont des membres supérieurs. Un membre supérieur d'un mammifère terrestre. Là en haut, ce sont que des mammifères terrestres. Celui-ci, c'est une chauve-souris. Là, c'est une patte d'un mammifère aquatique retourné dans l'eau. Mais si vous les regardez, et si vous regardez notre bras, nous avons tous cette même configuration du bras qui fait qu'il est constitué ici un os dans le bras, deux os dans l'avant-bras, une multitude, enfin, en gros, si vous voulez, une espèce de palme à cinq côtés dans la main, le tout raccroché au corps par la palette de l'omoplate. Et donc, pour lui, pour Geoffroy Saint-Hilaire, c'est une évidence que si tous les mammifères, quelle que soit leur taille, quel que soit leur mode de vie, quel que soit le milieu dans lequel ils vivent, si tous ont cette même configuration, eh bien c'est qu'ils ont une origine commune, c'est qu'ils ont au moins une histoire commune. D'autant qu'on parle du membre antérieur, enfin, qui est pour nous le membre supérieur pour ce qu'on est redressé sur nos deux pattes, mais il en va de même des membres postérieurs ou inférieurs selon qu'on est debout ou qu'on est au contraire à quatre pattes. Il en va de même de l'ensemble du squelette. Donc vous voyez que dans ce 18e siècle, on a à la fois des intuitions, des tentatives d'expérimentation, une grande classification, des hommes qui commencent à observer, si vous voulez, surtout des anatomistes qui observent et qui en arrivent à un certain nombre de conclusions. On s'achemine petit à petit vers cette idée d'évolution. Autre grand nom et autre grande rue du Quartier Latin, Cuvier, Georges Cuvier. Alors lui aussi, vous voyez sa date de naissance, il est né quelques années avant la Révolution française, il est mort 1832, on est déjà au 19e siècle. Georges Cuvier est un paléontologue, c'est-à-dire c'est un scientifique qui étudie les os fossilisés. Il est capable, là c'est une histoire très commune, sur ce petit bloc de rocher, il y a ce qu'on appelle une sarriette, c'est un insectivore, et il a été capable, si vous voulez, à partir de la forme de la dent, d'imaginer qu'elle pouvait, enfin de savoir, c'est pas de l'imagination, quelle est la forme du museau, quelle est la forme de la face, et donc quel est le type d'animal auquel il appartenait, y compris son mode de locomotion et son mode de vie. C'est-à-dire qu'il a une telle étude de l'anatomie, une telle observation des animaux, qu'il peut aller jusqu'au bout, en quelque sorte, de ce qu'on peut tirer de cette observation. C'est un, je vous ai dit, c'est surtout un paléontologue. Ah, allez. Non. Ah, oui. Donc le voici dans son bureau au muséum. On lui apporte absolument tous les ossements fossiles qu'on a pu trouver de par le monde à étudier. Il en arrive à la conclusion quand il observe ces ossements fossilisés. Lui, c'est un paléontologue, il travaille sur les ossements fossilisés. Il en arrive à la conclusion qu'effectivement, il y a eu autrefois des animaux totalement différents des animaux actuels, des animaux d'autrefois, aujourd'hui disparus, totalement différents de ceux qui existent. Quelle explication il en donne ? Il en donne une explication. Il est profondément fixiste. Il est profondément, si vous voulez, il pense lui aussi que toute la création a été faite telle qu'elle devait l'être, selon un plan et une fois pour toutes. Et donc il en arrive à la conclusion que si des animaux ont existé autrefois et sont aujourd'hui disparus, c'est qu'en fait la création a été suivie d'un certain nombre d'épisodes, si vous voulez, de catastrophes où des pans entiers des êtres vivants ont disparu, une des premières catastrophes étant bien évidemment le déluge. Et donc vous voyez comment on arrive, bien qu'il y ait les faits, bien qu'il y ait les possibilités d'interprétation, d'observation et de connaissance du matériel fossilisé, on arrive selon les idées qui sont celles en cours à l'époque, à cette idée qu'effectivement, enfin je veux dire, il ne suffit pas d'avoir les faits, il ne suffit pas d'avoir les fossiles, il ne suffit pas de voir, il ne suffit pas de, en quelque sorte, de pouvoir observer. Les idées à partir desquelles on travaille comptent elles aussi énormément. Et puis. Alors lui, il n'a pas sa rue à Paris et pour cause, puisqu'il est anglais. Il s'agit là de Darwin. Darwin. Je vais reprendre la bouteille d'eau, je ne sais pas où elle est. Elle est là, je te remercie. Darwin, il a quelque chose comme 24 ans. C'est un... Il croit en Dieu, je veux dire, c'est un petit bourgeois anglais. Il se destine à devenir curé anglican, si on peut dire ainsi. Il est passionné de sciences naturelles. À 25 ans, il s'embarque sur le Beagle, un navire, parce que le capitaine cherche un naturaliste pour son voyage au long cours qui va durer 4 années. Darwin va en rapporter un nombre incroyable de spécimens. Il va apporter un nombre incroyable d'observations. Il va ensuite travailler dessus pendant 30 ans. Il va avoir à la fin la conclusion évidente de ses observations, c'est que oui, les organismes vivants évoluent, oui, les organismes vivants n'ont pas été toujours tels qu'ils sont aujourd'hui, ils ont derrière eux toute une histoire. Pourquoi les organismes vivants évoluent-ils? Et il en a trouvé la conviction profonde, c'est pour ça qu'il y a les deux petits oiseaux en haut de la diapo à droite, quand dans les îles Galapagos. Dans ces îles Galapagos, c'est des îlots relativement, enfin, qui sont distincts les uns des autres. C'est-à-dire qu'un oiseau ne va pas d'un îlot à l'autre en volant. Ils sont distincts, ils se sont séparés, si vous voulez. Et il observe que dans chacun des îlots, les pinsons ne sont pas tous les mêmes. Dans certaines îles, les pinsons ont des becs extrêmement fins qui vont aller chercher les vers très profondément. Dans d'autres, des becs cornus qui vont casser en quelque sorte leur alimentation. Donc il en arrive à cette conclusion que si ces pinsons-là, qui sont devenus des espèces différentes, qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, il en arrive à cette conclusion qu'en réalité, à l'origine, il y avait une espèce de pinson. Quand ils ont été séparés sur des îlots différents, ceux qui avaient, en quelque sorte, qui ont vu des transformations de leur corps au point d'arriver à un bec qui correspondait précisément au type d'alimentation correspondant à l'îlot où ils étaient, ceux-là vont l'emporter sur les autres et finir par être l'espèce dominante. Donc il en arrive, on est à peu près, si vous voulez, quand il en arrive à ces conclusions-là, on est dans les années, à la fin des années 1840, 1848, il en arrive à cette conclusion. Mais s'il publie Darwin, c'est pas... C'est quand un de ses amis lui dit « Attends, ça fait 30 ans que tu bosses. Derrière, il y a Wallace qui est là, qui va arriver aux mêmes conclusions que les tiennes. Donc, tu as intérêt à publier maintenant. Si ce n'est pas toi qui le fais, ce seront d'autres. Et à partir de ce moment-là, tu n'auras pas en quelque sorte la primeur de la découverte. » Je vous dis ça parce que finalement, il sait quel tollé ça va être dans la société anglaise. Je veux dire, il est anglican. À la fin de sa vie, il dira qu'il n'est plus croyant, il dira qu'il n'a plus besoin de Dieu. Plus exactement, il le dira comme ça, en disant que finalement, pour comprendre le monde, pour l'expliquer et pour voir comment les espèces ont évolué au cours de l'histoire, il n'a plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Elle est inutile, en quelque sorte, à son discours. Il a bien raison de s'inquiéter. Parce qu'effectivement, bon là c'était lui, c'est la façon dont lui analyse l'histoire des girafes dont on a parlé tout à l'heure. Lui dit non, dans la population des girafes, il y en a qui ont des longs coups, il y en a qui ont des petits coups, hein, pour vous dire ça de manière un peu schématique. Et dans la savane africaine, là où effectivement les ressources alimentaires vont devenir de plus en plus rares, les girafes qui ont un long cou vont en quelque sorte avoir un avantage sélectif sur les autres, puisqu'elles vont pouvoir se nourrir sur les hautes branches. Et que donc, par conséquent, ce sont ces girafes-là qui vont finir par être les espèces qui vont en quelque sorte dominer, si vous voulez, sur les autres. Vous voyez que par rapport à Lamarck, c'est une autre forme d'explication. Mais vous voyez aussi qu'avec Lamarck, tous deux sont évolutionnistes, effectivement, comprennent que l'histoire du monde vivant est une histoire, effectivement, qui est faite d'évolution. On arrive au moment où son livre est publié, c'est en 1848 ou en 18...
Puis ensuite, une deuxième migration de sapiens, il y a environ 100 000 ans. C'est un peu schématique, on a l'impression qu'ils sont sortis deux fois, c'est simple. Pourquoi ils seraient sortis que deux fois et pourquoi entre 1 700 000 et 100 000 ans, ils ne sont pas repassés par là? Il n'y a aucune raison pour ça. La raison, aujourd'hui, elle est qu'on a retrouvé très très peu de traces.
La publication de l'origine des espèces, celui-là, il est publié en 1859. Et à partir de 1850, il a un certain nombre de publications. Mais c'est vrai que la publication, oui, la publication par rapport à Wallace, Chuck, elle va aller là. La publication par rapport à Wallace, tu as raison, c'est 1859. Vous voyez qu'on n'est pas si loin d'ici. On est à 150 ans de nous. Et déjà, à l'époque, ça fait un grand bruit. C'est-à-dire qu'on commence à admettre cette idée d'évolution, mais si on l'admet pour l'histoire des organismes vivants, on ne l'admet absolument pas pour l'histoire de l'homme. Pour l'histoire de l'homme, on en est encore, si vous voulez, on doute encore qu'il puisse y avoir une évolution. Boucher de Perthes est un des... Vous voyez, c'est à peu près un contemporain de Darwin. C'est un de ceux qui vont découvrir dans les couches de terrain, dans les coupes comme celle-ci, donc ils vont avoir cette conviction, donc les couches les plus profondes sont les plus anciennes. Il va découvrir des formes d'outillage et notamment un certain nombre de bifaces qui vont lui permettre d'arriver à cette conclusion qu'effectivement pour les hommes aussi il y a une histoire évolutive. Là vous voyez les chantiers de fouilles tels qu'on les faisait à l'époque, notamment dans la vallée de la Dordogne, aux Aisies, je ne sais pas si vous connaissez, enfin c'est le coin dans la vallée de la Vézère et de la Dordogne, là où on a trouvé un grand nombre de fossiles de Cro-Magnon, et donc ils vont découvrir dans toutes ces couches superposées des fossiles d'individus, des outillages qui vont permettre d'arriver à cette idée que les hommes qui appartiennent aux couches les plus profondes et ceux qui appartiennent aux couches les plus supérieures, c'est un long temps qui s'est déroulé entre eux et c'est une longue période d'évolution qui a permis d'arriver à la situation actuelle. C'est à peu près dans les mêmes eaux, puisque c'est en 1856 qu'en Allemagne, on découvre l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est parce qu'on l'a découvert dans la vallée de la Néandertal. Et si vous regardez ce crâne, il a d'énormes bourrelets sous-orbitaires, ici au-dessus des orbites. Il a en plus le crâne, le premier qu'on trouve, il a aussi une absence de menton, un massif facial extrêmement développé. Si bien qu'on se refuse à faire, au moment où il est découvert, au milieu du 19e siècle, on se refuse à y voir un ancêtre de l'homme. On y voit, alors, dans les publications de l'époque, c'est un individu dégénéré, c'est un alcoolique, c'est un soldat qui fuit devant les armées napoléoniennes. Enfin, c'est un homme, mais c'est nécessairement un dégénéré ou un... C'est un homme, mais c'est en aucun cas, c'est un malade. Voilà, c'est un malade, c'est quelque chose. Et on en donne à peu près cette représentation-là, celle d'un être hirsute, totalement, alors toujours avec cette position un peu voûtée en avant, avec le bâton de bois, bien évidemment, au bout de la main. Et c'est pas que dans cette période-là, puisque là vous avez une statue qui existe encore, qui est au musée des Aisies en Dordogne, qui est érigée au-dessus du musée, qui date de 19... La statue, elle date de 1930. Bon, si le musée l'a gardée aujourd'hui, c'est en symbole. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on pense encore que les Néandertaliens sont ceux-là. Vous voyez que pendant très longtemps, les hommes de Néandertal vont avoir cette... cette réputation-là. En tout cas, en faire un ancêtre direct de nous, ça passe pas. Darwin, en 1871, c'est-à-dire, tu vois, à peu près, je veux dire, 12 ans après la publication de l'origine des espèces, publie un autre ouvrage qui s'appelle « De l'ascendance de l'homme », où là, concrètement, il affirme que oui, nous avons avec les singes des ancêtres communs, que nous avons une parenté, qu'il y a toute une histoire d'évolution de l'un, enfin des uns vers les autres. Il est loin d'avoir tracé encore toute l'histoire comme on peut le faire aujourd'hui, mais cette idée existe. Eh bien, quand Darwin publie, voilà le type de caricature qu'on va faire de lui. C'est-à-dire qu'on le représente comme un singe à longue queue. La lady anglaise passe à côté de lui. La petite histoire raconte qu'une lady aurait dit « Oh mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai, pourvu que ce ne soit pas vrai, et si jamais ça l'était, faites en sorte que ça ne se sache pas. C'est-à-dire qu'il y a véritablement dans cette période-là une volonté, enfin je veux dire, un espèce de refus d'imaginer pour l'espèce humaine une idée d'évolution. Un des exemples les plus criants, c'est celui-ci. C'est ce petit homme qui est là. En fait, c'est pas un homme, c'est un primate, c'est un jeune, hein, c'est un très jeune, ça se voit parce qu'aucun des caractères n'est très prononcé et les dents sont courtes. Et quand on le retrouve comme en fossile, il y a donc la partie supérieure de la face, il y a la petite mandibule, et derrière, il y a tout l'enroulement ici, il y a un moulage du cerveau. Tu vois, c'est-à-dire que quand ce petit est mort, il a été recouvert par des glaises qui ont fini par sécher, qui ont conservé minéralisé l'os de la face et l'os de la mandibule, et qui ont gardé l'empreinte de la cervelle, l'empreinte de son cerveau. Raymond Dart, qui est un Africain du Sud, le considère, on l'a trouvé, si vous voulez, en Afrique du Sud, à Tong, dans une mine où on trouvait énormément de fossiles et de petits crânes de babouins, de fossiles et de petits crânes, y compris d'hommes, enfin, je veux dire. Et on a trouvé ce tout petit crâne, il existe en tant que tel, et Raymond Dart, quand il le voit, il est anatomiste, et qu'il observe cet enroulement du cerveau, il voit, si vous voulez, vous savez, on a un trou sus-orbital, j'ai pas de crâne là, tout est resté de l'autre côté. Il y voit, si vous voulez, un crâne bien en équilibre sur la colonne vertébrale. Donc pour lui, ce n'est pas véritablement un singe. Il va construire à partir de ce petit fossile toute l'histoire des Australopithèques. Australopithèques, ça veut dire austral sud. Enfin, ce sont les petits singes d'Afrique du Sud. Il va surtout se battre toute sa vie pour faire reconnaître ces Australopithèques, non pas comme des singes, mais comme une espèce de transition entre le singe et l'homme. C'est-à-dire comme une espèce de passage de l'un à l'autre. Quand je dis qu'il va y passer sa vie, il va véritablement y passer sa vie, parce que quand il l'a, là il est très jeune quand il le découvre, il a quelque chose comme 25 ans, il va mourir, qu'il ne sera toujours pas parvenu à faire de cet Australopithecus africanus, comme il l'a appelé, une espèce d'intermédiaire entre, puisque c'est la façon dont on se posait le problème à l'époque, une sorte d'intermédiaire entre les singes et l'homme. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on l'a trouvé en Afrique. Et que en 1925, on n'est absolument pas prêt à imaginer une origine africaine à l'humanité. Le fait même que ce fossile soit africain l'exclut, en quelque sorte, de la possibilité d'être sur l'histoire des hominidés. D'autant qu'à l'époque, on a un candidat justement à la transition entre le singe et l'homme qui est beaucoup plus présentable, c'est celui qu'on a représenté ici à gauche, qui s'appelle l'homme de Piltdown. Pourquoi est-il beaucoup plus présentable? D'abord, il a un crâne beaucoup plus volumineux, il est presque aussi beau que nous le sommes, puisque à l'époque on pense que les hommes sont nécessairement beaux avec un haut front, etc. Et puis surtout, il est anglais. Et je veux dire, imaginez une origine européenne et encore mieux britannique à l'origine de l'humanité convient infiniment mieux à la société européenne, si vous voulez, du début du 19e siècle que d'imaginer une origine africaine. Et c'est d'autant plus rigolo qu'en réalité, ce fossile de l'homme de Piltdown, on découvrira dans les années 50 qu'il s'agit en fait d'un faux, qu'il s'agit d'un espèce de montage entre un crâne trouvé dans un cimetière, une mandibule d'orang-outan, qui a été retrafiquée, qui a été reponcée, qui a été retravaillée, et dont on ne sait pas si c'est Teilhard de Chardin qui en est à l'origine, ou si c'est une blague de potache enfin je veux dire d'étudiants qui ont envie de faire un mauvais coup, la seule chose que l'on sache, c'est que c'est un faux lamentable, et ça on a pu se rendre compte quand on a eu d'autres méthodes d'études. À l'époque, les scientifiques sont... Alors, à l'époque, ces scientifiques qui sont ici et qui l'étudient doctement. Je veux dire, c'est d'une part qu'ils n'ont peut-être pas les méthodes nécessaires pour véritablement voir ce que c'est, mais c'est aussi que leur propre idéologie, leurs propres idées en la matière les conduisent nécessairement là où ils ont envie d'aller. Je veux dire, faire de l'homme de Piltdown l'ancêtre possible ou probable entre les singes et les hommes, ça correspond tout à fait bien à l'idée de l'époque, si vous voulez. C'est quand même le capitalisme triomphant, c'est quand même l'Angleterre, enfin je veux dire, c'est toute l'Europe, et donc c'est un candidat absolument choisi à ce rôle. Bon, oui.
Pourquoi on lui a attribué
le fait du
faux théâtre?
Parce qu'à l'époque, il s'occupe effectivement de paléontologie, parce que je pense que ça a été aussi la possibilité, si tu veux, pour un certain nombre qui étaient anti-calotins, de dire que ça ne pouvait être que l'œuvre d'un curé. D'autres disent que c'était peut-être Conan Doyle qui avait voulu faire une espèce de blague avec... Enfin, je veux dire, tout a existé, tout a un peu été dit sur l'homme de Piltdown, sans qu'on en sache quoi que ce soit. La seule chose qui me paraît, moi, le plus intéressant, c'est de se dire que, véritablement, il ne suffit pas d'avoir des faits, il ne suffit pas d'avoir des fossiles, il ne suffit pas de les avoir en main et de les étudier. Encore faut-il avoir la possibilité de le faire convenablement, peut-être ne l'avait-il pas, et puis surtout de ne pas être bloqué par les idées en quelque sorte dominantes de l'époque dans laquelle on se trouve. Et en fait, ça va aller relativement vite après. Enfin, ça va changer, si vous voulez, au milieu du... Oui ?
Je crois que Villers, il veut prendre le dernier bus à la dernière...
Ben, je ne sais pas quelle heure il est, mais bien sûr.
Et, du coup, pour les ordinateurs et les ceux qu'il faut porter...
Ben chambre, je le ferai. Attends, mais bah, tout de suite, il faut
non,
que tu
non,
partes, là
non, c'est pas tout de suite.
D'accord.
Juste pour dire, je suis dans la chambre 357. Je te note.
Mais tu t'en parles, là?
Il faut que j'aille au SO à 10h.
D'accord, d'accord. Donc, oui, ou à quelqu'un d'autre.
Hein.
En 1959, ce qui va changer un petit peu la donne, c'est, ici, vous avez la découverte, il est de l'autre côté, le moulage, il est de l'autre côté de ce fossile, et c'est la découverte en Afrique de celle que de Dear Boy, c'est-à-dire Mary Leakey, la femme, enfin je veux dire, c'est toute une famille de préhistoriens et de chercheurs qui vivent en Afrique du Sud. Leurs enfants maintenant continuent à travailler là-bas eux aussi. Et si vous voulez, elle est convaincue de l'origine africaine de l'humanité. Donc à la suite en quelque sorte de Dart, elle va continuer à chercher, elle va finir par trouver, elle trouvera en Afrique de l'Est son dear boy, son cher garçon, avec qu'elle pourra présenter comme étant en fait, et à ce moment-là ça va être ce que Yves Coppens a appelé la ruée vers l'os, c'est-à-dire que toutes les équipes internationales, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient européennes, vont se ruer vers l'Afrique où elles vont essayer de trouver les principaux fossiles qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui et à partir desquels on a pu effectivement montrer. Ça va être 74, la découverte de Lucie qui est un fossile exceptionnel, parce que si vous voulez, tout ce qu'on n'a pas à droite on l'a à gauche, donc c'est exactement comme si on possédait la totalité du squelette de cette jeune femme. Donc ensuite on va les faits, si vous voulez, notamment pour Yves Coppens, vont permettre d'imaginer l'origine de l'homme. On trouve pratiquement tous les fossiles dans la partie qui est ici, à l'est, si vous voulez, du rift africain. Le rift africain, c'est une espèce de fossé, en quelque sorte, qui sépare l'Afrique en deux parties, avec entre les deux une espèce de barrière montagneuse qui arrête les nuages arrivant de l'océan, et qui donc fait que l'ouest est pluvieux, donc, et les sols très acides, alors que l'est est au contraire beaucoup plus sec. Et donc, pour Coppens, et on trouve, alors, du côté ouest, du côté forêt tropicale, on trouve pas grand chose. On trouve pas grand chose parce que les sols sont tels que rien ne peut se conserver. Du côté est, c'est là qu'on a trouvé tous les australopithèques. on trouve une foison. Quand je dis une foison, ce sont des dizaines, quelques centaines au bout d'un moment de fossiles différents dans toute la partie est-africaine. Donc à partir de ça, Coppens va dire, eh bien écoutez, on est peut-être arrivé à la compréhension de ce qui s'est passé il y a 7 millions d'années. On sait par ailleurs, par la géologie, qu'il y a eu une réactivation du rift africain, c'est-à-dire qu'il s'est creusé et soulevé en même temps. Donc il dit, il y a 7 millions d'années, il y a une population. Parmi cette population, il va y avoir la frontière, en quelque sorte, réalisée par le rift, qui va empêcher les contacts entre l'un côté et l'autre. Donc, du côté ouest, certains vont évoluer dans ces fameuses forêts tropicales. Du côté est, les autres vont évoluer avec la pression, si vous voulez, qu'offre un milieu beaucoup plus sec, avec la savane, etc. Et il dit, voilà, probablement, quelle est l'origine, si vous voulez, de la séparation de ceux qui ont donné d'un côté les chimpanzés et de ceux qui ont donné de l'autre côté les hommes. C'est ce que Yves Coppens a appelé l'East Side Story, par opposition à West Side Story, enfin, toujours avec beaucoup d'humour. Sauf que, voilà, donc là, c'est la séparation par rapport à la première diapo qu'on avait vue. Donc, ce qu'il imagine être, à l'époque, l'origine de la séparation entre les deux groupes, et donc de la séparation entre ceux qui vont donner les chimpanzés et ceux qui donneront les hommes. Sauf que, 1995, 20 ans plus tard, donc, on découvre, cette fois-ci à l'ouest du rift africain, des fossiles d'Australopithèque. Ça, c'est Michel Brunet qui les découvre. Coppens dit au premier, ça prouve rien, faut voir, faut chercher, sauf qu'en 2002 on en trouve d'autres, et puis qu'on en a trouvé depuis d'autres encore. Donc tout ça pour vous dire que à partir de ce moment-là, Coppens dit, ma théorie, elle est plus suffisante. Et c'est pour vous dire que en réalité, pour arriver à comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut qu'à un moment, une théorie, elle puisse réunir et rassembler en une histoire l'ensemble des faits qui ont été découverts, l'ensemble des fossiles, l'ensemble du matériel lithique, enfin des matériaux, des outils de pierre qu'on a pu trouver, de façon à donner une histoire cohérente. C'est pour dire aussi qu'au fur et à mesure que l'on découvre d'autres fossiles, que l'on découvre d'autres choses, et surtout maintenant avec l'aide de la génétique qui apporte quand même des renseignements d'une autre nature, c'est pas qu'ils soient plus précis ou moins précis, c'est qu'ils sont d'une autre nature, on finit par arriver à raconter un peu les histoires qu'on raconte dans les autres petites conférences ici et dans l'expo qui est donnée, une histoire effectivement de l'humanité. Mais vous voyez que finalement cette histoire, elle est récente. Je veux dire, quand on regarde Darwin, c'est 1859. 1859, ça veut dire combien ? 150 ans de nous. 1871, quand il publie De l'origine des espèces, c'est 20 ans plus tard. Ensuite, il y a encore toute la bagarre qui va se créer. Mais aujourd'hui, la seule chose que l'on peut effectivement dire, c'est que ça sera certainement pas la fin des théories, parce qu'au fur et à mesure qu'on découvrira de nouveaux fossiles, il faudra encore affiner cette histoire. En tout cas, ça devrait être, si ce n'est, la fin des mythes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à la fois les moyens, on a les faits, on a les preuves, et les moyens de les rassembler les uns par rapport aux autres pour essayer d'écrire cette histoire de l'homme. Et donc, ce topo, c'était surtout pour montrer qu'il y a aussi toute une histoire de l'homme qui dépend effectivement un peu des périodes dans lesquelles on a pu faire les découvertes et qui est en fait une histoire extrêmement récente. Voilà, voilà.
Est-ce qu'il y a pu y avoir des hybrides entre les chimpanzés et les hommes au début, quoi, je
veux dire, c'était ni des chimpanzés ni des hommes, tu vois. Enfin, c'était une population, je veux dire, qui était ni l'un ni l'autre. Donc dans ces primates, si tu veux, tu peux imaginer effectivement une population dans laquelle les êtres vivants, les individus se reproduisent, bien évidemment. Ensuite, quel a été le moment où la séparation entre les deux groupes a été telle que les possibilités, enfin je veux dire que les deux espèces ont été totalement séparées, il faut qu'à ce moment-là, génétiquement, elles soient réellement très difficiles. Et là, elles ont commencé leur vie, leur évolution, chacune en quelque sorte sur une branche différente. Donc tu vois, on ne peut pas dire les chimpanzés et les hommes. C'est la population de primates qui existait à ce moment-là et qui était ni les chimpanzés ni les hommes.
Néandertal et Cro-Magnon aussi. Hein.
Alors la différence entre si tu veux, la différence entre Néandertal et Cro-Magnon, il y a à peu près la différence entre salut les camarades allemands. La différence entre Cro-Magnon et Néandertal. Attends, je vais retirer ce machin-là.